Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonjour à toutes et tous, bonsoir, bonsoir, on fait le match 18h30, 20h, chaque samedi, bienveillance, info, débat, échange avec vous tous. Émission, vous le savez, on vous le répète, 100% interactive, filmée sur RTL.fr ou via l'application et à retrouver chaque week-end en podcast également. Avec moi et en studio, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football de RTL.
Bonsoir, bonsoir Christian, bonsoir à toutes et à tous.
Cindy Colmenares, la voix ensoleillée dont refait le match. Bonsoir Cindy.
Bonsoir à tous.
Dominique Sévérac, la plume du Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir Dominique.
Bonsoir tout le monde, attention à la bienveillance avec celui qui arrive. Hein.
Et Gilles Verdez, puisque c'est lui dont il s'agit, le procureur dont refait le match.
Bonsoir.
Gilles Verdez,
à défaut de bienveillance, j'ai au moins la compétence peut-être, contrairement à Dominique.
Le débat est déjà lancé, mais à fleur et moucheté pour l'instant. À 20h, 20h RTL Foot, Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi. Et à 21h, Mickaël Lefebvre pour l'intégralité, mais pas seulement d'ailleurs, le programme est toujours riche le samedi soir. L'intégralité de Nice-Brest, alors que dans le match de 17h, Montpellier et Strasbourg, 74 minutes de jeu, sont à égalité, un but partout. Dans un instant, nous filerons à la Mosson. Madame, messieurs, au menu ce soir, hommage à Jean-Pierre Adams. Puisqu'avant Nice-Brest tout à l'heure, eh bien, nous lui dédions également, si on fait le match, il y aura un hommage rendu donc à Jean-Pierre Adams et sera présent notamment sa précieuse épouse, Madame Adams, Bernadette. L'AS Saint-Étienne, dernier du championnat, monument en péril, reste-t-il toujours dans le cœur des Français, l'AS Saint-Étienne? Réponse avec le baromètre du week-end au Doxa RTL Kenéo. Lens, deuxième, c'est du sérieux. Semaine européenne pour les clubs français, coussi coussa. Au Paris Saint-Germain, ne vaut-il pas mieux être fin politicien qu'entraîneur? Giroud, Mandanda et l'équipe de France, par ici la sortie, une rupture en douceur. Et à 4 jours du 20e anniversaire de l'unique France-Algérie, sujet à débordement et polémique, souvenez-vous, le match Algérie-France, lui, longtemps envisagé, est-il renvoyé au calende grec? Et puis les tirs au but, ah, le rendez-vous des tirs au but, c'est le reste de l'actualité très chaud dans questions-réponses, après le coup de sifflet de l'arbitre, bien sûr. Et vous le savez, les plus faibles quittent le studio. Alors je vous le dis tout de suite, madame, messieurs, classement général provisoire, deux co-leaders, Gilles Verdez.
Ouais.
Et Sébastien Tarago, qui ne peut pas vous répondre ce soir. A tout de suite, restez avec nous, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match, c'est parti avec Cindy Colmenares, Philippe Sanfourche, Dominique Sévérac, Gilles Verdez bien évidemment. Et le direct du soir, match de 17h, c'est un grand classique, non pas le match, mais le rendez-vous. Montpellier-Strasbourg à la Mosson avec Éric Martin. Bonsoir Éric.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Et
à
où en est-on?
Un partout ici à la Mosson entre Montpellier et Strasbourg. On joue la 79e minute de jeu. Un match assez équilibré, légèrement dominé par les Montpellierains qui ont ouvert la marque à la 13e par Mollet d'une somptueuse frappe du pied gauche qui est allé crucifier le gardien strasbourgeois. Et puis les Strasbourgeois qui ont égalisé par Kevin Gamero qui a inscrit son deuxième but cette saison à la 28e minute de jeu. Et toujours 1-0 avec peut-être une attaque montpelliéraine et ça va être dégagé par les Strasbourgeois.
Antenne ouverte évidemment Éric Martin dès qu'il se passe quelque chose à 12 minutes plus le temps additionnel, un but partout entre Montpellier et le Racing Club de Strasbourg. La 11e journée de Ligue 2 débutera en partie à partir de 19h, mais deux matchs déjà de cet après-midi. Auxerre-Nîmes, le score 2-0. Amiens-Toulouse, le score 0-0. Madame, messieurs, premier débat, monument en péril. Il s'agit de l'AS Saint-Etienne, dernier du championnat, qui reçoit d'ailleurs Lyon demain. Derby Saint-Etienne-Lyon à Geoffroy Guichard, à suivre dans RTL Foot sur l'antenne de RTL. Ce derby semble totalement déséquilibré. Sur le terrain, c'est un grand vide. Dans les coulisses, beaucoup de vent pour acheter le club, mais c'est l'impasse pour l'instant et c'est l'impasse totale. Deux copatrons qui ne s'entendent pas du tout, d'où le sondage Odoxa RTL Kenéo, très instructif et qu'on va détailler dans un court instant, bien évidemment. Mais d'abord, un premier tour de table avec vous en studio. Qu'est-ce qui cloche, Gilles Verdez?
C'est la direction d'abord, une direction bicéphale et en fait c'est pas une direction et c'est la recherche de l'argent, c'est-à-dire que les deux dirigeants actuels veulent récupérer leur argent, faire des bénéfices, dépecer la bête. Je leur en veux énormément et quand on voit les repreneurs, ils sont prêts à sacrifier l'extraordinaire popularité de Saint-Etienne pour de bas instincts mercantiles.
La photo dirigeant donc pour Gilles Verdez. Philippe Sanfourche.
Non, on y va à la serpe déjà d'entrée de jeu. Il y a beaucoup de choses qui sont
sont compliquées et qui ont été effectivement mises en place par ce duo. Et on peut, à ce titre, leur reprocher. Maintenant, ce sont quand même des gens qui sont investis depuis plusieurs années, qui mettent beaucoup de temps, d'investissement, du cœur à l'ouvrage. Il y a un ancrage régional du côté de Romeyer. Il y a beaucoup... de choses qui peuvent être sur le papier un peu plus répréhensibles du côté de Caillazo, mais qui a quand même toujours réussi à garder un pied aux instances, à faire en sorte que ce club soit toujours représenté au plus haut niveau.
Oui, mais pour
il
ne
faut pas
moment,
non plus
Philippe,
totalement noircir le tableau.
À vous écouter, tout va bien.
Non, on va y venir très rapidement, mais ce qui a été fait avec Claude Puel a mis le club en grande difficulté. Aujourd'hui, Claude Puel, parce qu'il a une image, parce qu'il a un passé dans le football français, a réussi à mettre la main sur ce club de telle manière qu'aucun autre entraîneur n'a pu le faire sur les 15-20 dernières années. Il est à la fois entraîneur, il est manager, il est au conseil de surveillance, il a son agent qui est son gendre.
On va rentrer dans tous les détails.
Il fait venir des joueurs comme il veut, il les fait repartir comme il veut, okay. Il y a des conflits d'intérêts partout.
C'est, à tour de
c'est
table,
le deuxième salaire du club derrière un joueur. Est-ce que vous avez vu ça ailleurs?
Juste,
je termine. Salaire moyen des joueurs à Saint-Etienne, 65 000 euros par mois. Salaire de Claude Puel, 225 000 euros par mois. Vous avez vu ça
sans les bonus et les primes. Bon, c'est un tour de table, Philippe.
Ah, c'est dingo.
Donc pour Sanfourche,
c'est bon, je laisse la
faute à Claude Puel.
J'ai
pour Merlez, la faute au dirigeant, c'est Nicole Ménaras.
Et pourtant, les soucis, c'est une faute et un manque des liquidités, surtout parce que les mercato, ça aurait pu plus ou moins sauver les choses, mais on voit qu'ils n'ont pas pu faire grand-chose justement à cause de ces manques d'argent. Quand même, ils ont réussi à garder Camara, donc ce qui relève du miracle par rapport à la situation du club. Mais c'est vrai que la situation de ces clubs, autrefois quand même assez grands, est inquiétante.
C'est le constat, Cindy. C'est le constat. La faute à qui ?
Moi, je pense que c'est cette relation toujours difficile, l'effet que les clubs à deux, on le dit depuis des années maintenant, l'effet que les clubs à deux présidents, c'est très très compliqué à gérer et ça c'est récent. De toute façon, on l'a vu dans chaque débat, dans chaque décision qui a été prise à chaque fois.
Donc la faute à l'organisation bicéphale au sommet de ce club. Dominique Sévrac pour Le Parisien aujourd'hui en France.
Moi, je n'en veux pas à Claude Puel tout ce qu'a dit Philippe, 225 000 euros, les pleins pouvoirs, je ne crois pas qu'il ait braqué Saint-Etienne. Et je dis pas, j'ai pas découvert aujourd'hui qu'il y avait des problèmes à Saint-Etienne. J'ai pas découvert cette saison que Saint-Etienne était un club mal dirigé, en pleine perte de vitesse depuis des années. Moi, je suis désolé, Philippe, quand tu dis deux présidents qui investissent du temps et de l'argent. Bernard Caillazo ne vit pas à Saint-Etienne, fuit dès qu'il y a un problème. Son manque de courage est patent. Dans les instances, tout le monde se moque de lui par ses réflexions très décalées. On se demande s'il comprend très bien les enjeux. Il était patron du syndicat Première Ligue il n'y a pas très longtemps, qui était le syndicat issu de la scission avec l'UCPF. Il dirigeait les clubs de Ligue 1. Il n'y a eu aucune avancée. Il s'est ridiculisé sur la scène française. Et finalement, il y a eu refusion. Ouais. Et c'est Laurent
Nicolas. Il a quand même installé Didier Quillot à la tête de la Ligue.
Ça, c'est une bonne idée, ça. Et c'est Laurent Nicolas, aujourd'hui, qui dirige le syndicat unitaire. Quant à Roland Romeyer, je le connais moins bien. Lui, c'est sa passion qu'il trahit. Ça a l'air d'être quelqu'un de sincèrement engagé à Saint-Etienne. Mais en fait, vous pouvez pas mettre un supporter à la tête d'un club. C'est pas ça. Un club, aujourd'hui, c'est une PME. C'est une grosse entreprise. Il faut des gestionnaires. Il faut avoir des gens qui ont un cap, une direction. Et je crois que Romeyer, il est animé par sa passion et pas par sa compétence.
Il préfère les fonds américains, Dominique.
Donc malheureusement,
le constat de Gilles est le vrai.
Ça fait des années qu'il y a une déliquescence.
J'ajoute les joueurs aussi.
Ah, ça c'est pas le tour de table. Maintenant, on viendra dans le détail dans un instant, Gilles Verdez. Je me résume. Il faut toujours se résumer pour les auditeurs qui nous rejoignent. La faute au dirigeant pour Gilles Verdez. La faute à Claude Puel pour Philippe Sanfourche. La faute à une direction bicéphale pour Cindy Colmenares. Mmh. Et la faute à l'incompétence de Bernard Caillazo pour Dominique Sévrac. Vos propos n'engagent que vous, évidemment.
Bah, on me demande mon avis, je le donne.
Avec nous, en ligne, Erwan Lestrohan. Bonsoir, Erwan.
Bonsoir à tous.
Directeur des études pour Odoxa, ça tombe bien, on avait un sondage à vous proposer et que vous avez réalisé cette semaine sur la Lanterne Rouge, le dernier du classement, l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne donc, est-il encore une marque ? Saint-Etienne, la faute à qui ? Saint-Etienne est le pronostic pour le match de demain soir ? Et Saint-Etienne, les racheteurs dans les grandes lignes ? Ce sont les questions que vous avez posées aux Français. On commence d'abord par l'AS Saint-Etienne. Est-ce que c'est toujours une référence dans le paysage du football français, Erwan?
Eh ben oui, absolument, Christian. C'est vrai que les années passent et l'AS Saint-Etienne demeure une référence dans le paysage footballistique français. On a par exemple 68% des Français et 87% des amateurs de football qui nous disent que ce club a marqué l'histoire du football français. Alors, c'est plus important comme opinion chez les plus âgés, c'est moins important chez les plus jeunes, mais ça reste très majoritaire dans la population. Et surtout, un point très important qui montre le monument qu'est l'AS Saint-Etienne dans le paysage du football, 64% des Français ont une bonne opinion de l'AS Saint-Etienne, et même 72% des 50 ans et plus, 69% des ouvriers, 81% des amateurs de football. C'est un niveau de popularité très important et ça montre que l'AS Saint-Etienne dépasse les rivalités régionales qu'on peut voir dans le football, la défiance d'une partie de la population française à l'égard du football. C'est une très bonne image parce que c'est une image quasiment au niveau de l'équipe de France actuellement, beaucoup plus que d'un club. Donc c'est un club qui, de son image rassembleuse et populaire, a réussi à créer une vraie dynamique d'opinion dans la population. Ainsi, quand on leur demande aux Français, est-ce qu'il est important que l'AS Saint-Etienne évolue en Ligue 1 de football, 62% des Français nous disent oui, tout comme 80% des amateurs de football.
Alors ça, madame, messieurs, c'est important, car malgré les très mauvais résultats sportifs de l'AS Saint-Etienne, la très mauvaise image que renvoient actuellement les joueurs de par leurs résultats sportifs, et peut-être de par le comportement également de ses dirigeants, on y viendra dans un instant, l'AS Saint-Etienne, pour employer une expression à la mode, reste une marque.
Une des quatre équipes, un des quatre clubs pour moi qui ont marqué l'histoire du foot français. Vous aviez Reims, vous avez eu Saint-Etienne, après il y a eu Marseille, après il y a eu le PSG, alors il y en a eu d'autres. Mais pour moi, voilà, c'est un des quatre piliers du foot français. Et c'est aussi le foot que j'adore, c'est le foot des terroirs, c'est le foot de Sochaux, de Valenciennes, de Lens, c'est le foot de villes qui ont besoin de ça, de régions qui vivent à travers leur club. C'est essentiel, Saint-Etienne.
C'est l'ancien monde un peu.
Oui, mais je ne le renie pas, contrairement à vous.
Moi aussi,
je ne veux pas être le champ de la modernité. C'est l'ancien
ça,
monde
mais...
que j'aime. Et regardez les gens. À 87%, ils sont d'accord avec moi.
Mais oui, ils regardent Saint-Etienne comme on pose une belle relique au-dessus de la cheminée et on se dit que c'était le bon vieux temps. En fait, ils aiment Saint-Etienne parce que Saint-Etienne ne dérange plus, parce que Saint-Etienne ne bat plus leur club préféré, parce que Saint-Etienne n'est plus à la tête de ce que peut représenter le foot concurrent. Aujourd'hui, vous avez des clubs qui sont là pour représenter le foot français, pour aller chercher des points UEFA.
On rappelle
depuis
la question.
Quand est-ce que Saint-Etienne n'a pas joué la Coupe d'Europe de manière sérieuse?
Les personnes interrogées, pour eux, ce club a marqué l'histoire du football français.
Oui, on est dans un pays de boomers, comme on dit. Il y a beaucoup de gens qui étaient...
Non, pas vous.
Bah non, mais c'est ce qu'on
dit.
C'est ces catégories sociales, j'y suis pour rien, moi.
Oui, mais les boomers ont de l'expérience, cher ami. Les jeunes devraient aussi s'appuyer sur l'expérience des boomers.
Et ils étaient en âge de kiffer. De vivre
non,
pleinement.
Mais là, vous voulez jouer le jeune, que vous n'êtes pas du tout.
Ils étaient en âge de vivre leur passion quand il y avait Johnny Rep, les frères Révelli, il y avait Michel Platini, il y avait Christian Lopez, Kurkovic, tout ça.
Rocheteau.
Et donc, c'est normal que dans son âge, il y ait une empathie extrêmement forte pour ce club-là, parce qu'il a marqué notre jeunesse.
Je le trouve très nostalgique, hein, mais bon, alors maintenant, laissons parler les jeunes un peu.
On est des sentimentaux.
Non, mais pour quelqu'un qui est plus jeune, qui est certain sur cette table, mais ça...
Boum, prenez ça.
On fait la radio, Cindy regarde deux minutes.
Moi, je suis peinard. Je m'en sors bien.
Non, mais en fait, je trouve que toutes les personnes qui ont répondu à ces sondages, c'est très bien. Je suis d'accord avec Félicien Fourche. Regarde ces clubs pour ce qu'il a été, ce qu'il a représenté. Mais quand on regarde les matchs, les derbys contre l'OL et qu'on voit les nombres de places qui risquent d'être occupées, alors que les stades à 42 000 places possibles, ça va être dans la 30 000, 35 000 par là qui vont pouvoir assister au match, les autres personnes, les autres places seront vides. Bah on se demande bien où sont toutes ces personnes.
Bah déjà, il y aura pas de
ces passionnées.
Non, mais
ça c'est 2000 places.
Sur ce terrain-là, on peut pas aller, parce que s'il y a bien un club où il y a un ancrage populaire, où il y a des supporters qui restent présents malgré des années et des années de disette
et un spectacle.
Et on le voit bien, on le sent bien. Il y a quelques années avec la Coupe de la Ligue. Une simple Coupe de la Ligue, c'est un club qui a généré une passion. On sent que c'est sous-jacent. Ce stade est merveilleux, ces supporters, encore une fois, lorsqu'ils restent dans les clous, parce qu'il y a toujours, comme partout en ce moment, une frange qui peut déborder un petit peu dans l'ultra-violence. Mais globalement, c'est quand même un bastion
supporterisme en France. Un bastion pas très rempli en ce moment. T'es bien d'accord que contre l'OL, il devrait vraiment faire guichet plein, je sais pas.
Philippe Mapéné est blessé. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un peu facile de nous accuser d'être de vieux grigous ventripotents, nous référant à un football des années je ne sais quoi. Les clubs qui n'ont pas d'histoire cherchent une histoire. Le PSG que vous suivez avec talent, eh bien, ils cherchent leur histoire. Et ils disent toujours, oui, mais nous sommes jeunes, nous avons le temps. Le foot, c'est une histoire, c'est une tradition. ce sont des hommes, ce sont des légendes, ce sont des tactiques.
Vous citez Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain,
la Gagne, ça. Mais non, mais vous rayez d'un trait de plume Saint-Étienne sur
le terrain. Pas Saint-Étienne dans le Qatar. Avant le Qatar, il y a une histoire.
Oui, mais c'est une histoire de quelques dizaines, courtes dizaines d'années.
Il y a 40 ans avant
le Qatar. Bah oui, c'est court pour un club.
Le
PSG dit oui, on a le temps de gagner, nous on n'a pas d'histoire comme d'autres. Ne reniez pas l'histoire des Verts. Elle nous a enchantés. Et pourquoi on aime les Verts aujourd'hui? Pourquoi vous faites le sondage? Parce qu'on aime encore les Verts.
Madame, messieurs, c'est en fin de match chez l'AS Saint-Etienne. Après la page de pub, la deuxième thématique avec Erwan Lestrohan concernera pour ce baromètre Odoxa Kenéo RTL les responsables des mauvais résultats actuels. Les mauvais résultats, les responsables. Alors donc, les dirigeants, l'entraîneur ou les joueurs? Suspense.
RTL, on refait le match.
RTL, revivre ensemble.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
La suite d'On refait le match à 18h51 avec Cindy Colmenares, Philippe Sanfourche, Dominique Sévrac et Gilles Verdez, mais également le direct avec le match de 17h qui vient de se terminer il y a quelques secondes seulement. Montpellier face à Strasbourg, Éric Martin au stade de la Mosson.
Et score final, un but partout ici entre les Montpellierains et les Strasbourgeois. Un bon match assez animé. Manque d'occasion franche tout de même pour enflammer ce stade de la Mosson qui ne demandait que ça cet après-midi. Montpellier qui a eu la possession de la balle, les occasions également par Germain ou encore Savard, mais qui n'a pas su marquer ce deuxième but. C'est Mollet qui avait ouvert la marque à la 13e minute de jeu. Strasbourg qui a évolué en contre toute la partie. Gamero s'est illustré avec un but et deux occasions assez intéressantes. Mais score final donc, on l'a dit, un but partout. Strasbourg qui remonte en première partie de tableau. 9e position pour les Alsaciens. Montpellier est 12e.
Ok, première réaction évidemment à partir de 20h dans RTL Foot. Et premier débrief en compagnie d'Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. Avec nous toujours Erwan Lestrohan pour... Odoxa, ce sondage Odoxa Kenéo à RTL concernant l'AS Saint-Etienne après avoir parlé de la référence dans le paysage du foot français de l'AS Saint-Etienne. Parlons des responsables des mauvais résultats, Erwan Lestrohan. Qui sont-ils?
Eh ben alors les difficultés dans l'esprit des amateurs de football, les difficultés actuelles de l'AS Saint-Etienne, elles semblent plus liées au niveau de jeu ou à la gouvernance qu'à des choix tactiques. Quand on demande aux amateurs de football, pour vous, qui est le principal responsable des mauvais résultats actuels de l'AS Saint-Etienne, 54% nous disent les joueurs, 31% nous disent Bernard Caillazzo et Roland Remeyer, les dirigeants du club, et 14% uniquement, alors qu'il est annoncé sur la sellette, Claude Puel. Donc je pense qu'ils tiennent moins peut-être compte de la largeur des pouvoirs qu'évoquait Philippe Sanfourche, qui font preuve d'une certaine indulgence, et il doit avoir en tête le manque de moyens financiers auquel est confronté Claude Puel, les rumeurs sur la vente du club qui perturbent peut-être le quotidien. C'est vraiment les joueurs et dans une moindre mesure la présidence du club qui sont considérés comme les principaux responsables des mauvais résultats actuels.
Les joueurs en numéro 1, la direction bicéphale en numéro 2 et l'entraîneur Claude Puel en numéro 3, contrairement donc à l'analyse de Philippe Sanfourche.
Oui, mais c'est parce que Claude Puel bénéficie, et parce qu'il a un passé peut-être pas glorieux, on va pas exagérer, mais il a quand même marqué de son empreinte plusieurs clubs en France positivement, donc je pense qu'il surfe toujours sur cette bonne image. Et encore une fois, on regarde un petit peu Saint-Etienne de loin, si on n'est pas passionné de ce club, on regarde la situation de loin et on se dit que Claude Puel est un entraîneur largement dimensionné pour Saint-Etienne. Mais aujourd'hui, c'est un problème structurel qui est important à mon sens.
Claude Puel donc pour Philippe Sanfourche, et c'était les dirigeants pour Gilles Verdez, qui n'arrive qu'en deuxième position.
Les dirigeants, mais moi je le maintiens, ça ne marche pas entre eux, ils sont là pour récupérer leurs fonds. En plus, la manière dont ils se sont répartis les parts fait l'objet d'un procès depuis très longtemps. Donc c'est trouble, c'est opaque, ça ne marche pas. Et là, quand j'entends les repreneurs folkloriques comme l'héritier de Norodom Sihanouk, non mais franchement, on sait tous que c'est des biens mal acquis. Donc son petit-fils va se porter acquéreur d'un club. Heureusement, il s'est retiré parce qu'on a fini par voir que ça ne tenait pas la route. Par pitié, mettez-nous un repreneur valide si vous vendez le club.
On va parler du rachat probable. Ou potentiel, en tout cas, de l'AS Saint-Etienne. Dominique Sévrac, d'accord?
Non, mais je trouve que les sondés sont clairvoyants, sont lucides. Ils savent très bien que Claude Puel, c'est pas qu'il est protégé par son passé, Philippe, c'est qu'il a réussi à peu près partout où il est passé. Nice, une de ses dernières clubs, un de ses derniers clubs en France, c'était magnifique avec Atem Ben Arfa. Son expérience anglaise avec Leicester et Southampton, c'était pas facile. Il parlait quasiment pas un mot d'anglais. Il s'en est sorti. Donc, franchement, c'est pas qu'il est largement dimensionné, c'est qu'il a toutes les cartes pour redresser Saint-Etienne.
Mais là, en deux ans, c'est quand même très très léger son bilan quand même.
C'est 1,08 points par match, c'est très mauvais.
Parce que
c'est très mauvais.
Parce que là, vous êtes en train de clouer au mur les deux dirigeants, certes dans un système qui peut être discutable, mais c'est quand même aussi des dirigeants qui ont permis depuis 10 ans maintenant, à plusieurs reprises, à ce club d'être 4e, 5e de Ligue 1, de faire des choses intéressantes.
Puis surtout, Puel est manager général désormais, à toutes les responsabilités.
Est-ce que tu sais pourquoi ? Est-ce que si ça tenait à la réussite de Christophe Galtier ? Est-ce que ça tenait... Parce que moi, je peux te citer Oscar Garcia, qui restait trois semaines. Je peux te citer Julien Sablé, entraîneur pendant...
Oui, Gasset, ça fonctionnait aussi.
Voilà, donc c'était pas une politique, en fait. C'était au gré de choix d'entraîneur. Un coup, ça marchait, Jean-Louis Gasset. Un coup, ça marchait pas, Oscar Garcia. Ça, c'est pas une politique, c'est pas une vision.
Non, la situation n'a jamais été stable. Et c'est tous ces problèmes-là de cette gouvernance qui crée aussi de l'instabilité. Mais si on veut parler vraiment sur le terrain du foot, je ne doute pas des capacités du coach. Je trouve que c'est un bon tacticien et il a effectivement réussi partout. Mais par contre, c'est difficile aussi de gérer un groupe dont la plupart des joueurs sont très jeunes, certes portés par les cadres de l'équipe.
Souhaité. Si tu veux,
mais c'est
difficile.
Lui qui l'a mis en place. Mais il faut du temps.
Le bilan positif, Philippe, de Saint-Etienne, des dirigeants, on ne peut pas leur imputer parce qu'on ne sait pas si c'était un coup de chance ou c'était vraiment une vision. Donc, dans le doute, on est obligé de se dire que Jean-Louis Gasset, c'est une bonne idée de l'avoir fait venir, mais tu ne sais pas si la réussite, elle est plus due à Jean-Louis Gasset qu'à leur vision à eux.
Les amis, il y a encore deux thématiques. On va passer sur la thématique du derby, où là, évidemment, l'AS Saint-Etienne, pour la plupart des Français, n'est pas favori en vue du match demain face à Lyon. Je crois, de mémoire, Erwan, qu'il y a combien 18% simplement des amateurs qui considèrent que Saint-Etienne
a une petite chance, c'est ça ? 14% des Français, 18% des amateurs de football. C'est au plus bas, et c'est même plus bas qu'il y a deux ans après le départ de Ghislain Printemps, donc la victoire de Lyon est très pronostiquée dans l'opinion.
Et la vente surtout, alors. Faut vendre ou faut pas vendre, Erwan ?
Et bien alors justement, là, dans la continuité de l'indulgence dont font preuve les amateurs de football à l'égard de Claude Puel, qui est, c'est vrai, un entraîneur reconnu, les amateurs de football sont partagés sur la pertinence de le remplacer. Ils seraient plus convaincus par un changement à la présidence. 62% des amateurs de football nous disent que ce serait plutôt une bonne chose de vendre le club à de nouveaux actionnaires. Et ils ne sont que 48% à dire que ce serait une bonne chose de changer d'entraîneur.
Donc c'est quand même très mitigé. Je rappelle qu'il y a trois options. Une cambodgienne, évoquée par Gilles Verdez, qui, selon lui, ne tient pas la route. Une américaine, avec peut-être Jérôme de Bontin, qui a présidé de façon très éphémère l'AS Monaco en son temps, et une locale avec Olivier Marc-Carian, avec un l'aide d'un fonds luxembourgeois.
Hein. Tout ça est nébuleux quand même. C'est dommage qu'une place forte du football français comme ça n'attire pas de gens, déjà encore plus d'investisseurs locaux ou français. Parce que bon, la solution locale, moi, je préfère qu'elle soit française en fait.
Il est là le paradoxe. L'AS Saint-Etienne est une marque. À l'évidence, mais avec 50 millions de dettes aussi, l'AS Saint-Etienne ne fait plus.
Mais c'est la place qu'ils sont actuellement en Ligue 1 qui fait peur aussi. Enfin, je pense que pour un investisseur qui voit qu'ils sont derniers des Ligue 1, qui n'arrive pas à reporter un match depuis à peu près 5-7 matchs, je ne sais pas, c'est à peu près. Voilà, c'est pas très encourageant.
Vous ne savez pas ce que vous achetez. Vous ne savez pas où sont les actifs. Je le dis, il y a un contentieux entre les deux dirigeants. Ils ont vendu, contrairement à ce que dit Philippe, c'est pas Puel qui a voulu rajeunir. C'est parce qu'il n'y avait plus d'argent, il n'y a plus que des jeunes. Donc c'est quand même très compliqué, ça. Etienne.
Merci messieurs, merci madame pour ce dossier stéphanois. Merci également donc à Erwan Lestrohan, directeur d'études chez Odoxa, pour ce baromètre très intéressant, très instructif concernant l'AS Saint-Etienne, à retrouver avec d'autres informations avec vous Philippe demain dans la matinale de Carpentier. Stéphane Carpentier, ce sera à 9h. Merci beaucoup pour ce baromètre Odoxa RTL Kenéo. Après les informations de 19h, d'autres sujets bien chauds, avec notamment les Coupes d'Europe et le Paris Saint-Germain.
RTL, on refait le match. RTL, revivre ensemble.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
La suite et surtout pas la fin d'On fait le match. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h en compagnie de Cindy Colmenares, Philippe Sanfourche, Dominique Sévrac, Gilles Verdez. Le match de 17h s'est soldé par un résultat nul. Montpellier-Strasbourg, un partout. Réaction débriefing à partir de 20h dans RTL Foot en compagnie d'Eric Silvestro, Giovanni Castaldi et Xavier Domer. Puis à 21h, l'intégralité du match du samedi soir qui opposera Nice à Brest. En Ligue 2 cet après-midi, Auxerre Nîmes, 2 buts partout. Amiens-Toulouse 0-0. Et depuis 5 minutes environ, coup d'envoi des autres matchs de cette 11e journée. Pour l'instant, pas de but entre Caen, Valenciennes, Guingamp, Rodez, Grenoble, Pau, Dunkerque, Bastia, le PFC Nancy, l'AC Ajaccio, Quevilly, Rouen, Sochaux, Niort et le Havre, Dijon, partout 0-0. Messieurs, après avoir, madame, parlé de l'AS Saint-Etienne, les clubs français en Coupe d'Europe. Tiens, allez, on va se faire un petit dossier Coupe d'Europe. Pour tous ceux qui reviendraient de la Lune, je rappelle les résultats. Ligue des Champions, victoire contre City du PSG 2-0. Défaite de Lille à Salzbourg de buts à 1. Ligue Europe, Marseille, Galatasaray 0-0. Monaco 1-1 à la Real Sociedad. C'est bien ça, hein, Monaco, Real Sociedad.
Un partout.
3-0 pour Lyon face à Brøndby. Et puis la Ligue Europe Conférence, 2-1 pour Rennes face au Vitesse Arnhem. Match qui avait lieu aux Pays-Bas. On commence par le plus mauvais résultat, Lille. Lille qui a perdu face à Salzbourg. Faut-il s'inquiéter ?
Bah oui.
Dominique Sévrac.
Bah Lille n'a pas le niveau de la Ligue des Champions pour l'instant. Et Lille a été trahi par ses cadres de la saison passée. Je pense notamment à Burak Yılmaz qui a provoqué le deuxième pénalty sur un coup franc où il tend sa main de manière bizarre. Il a 35 ans, il a une expérience quand même assez conséquente. Et il est sur la lancée de son euro raté. Ça fait plusieurs mois qu'il est plus dedans. Bon, c'est un club qui a du mal à. C'est le syndrome du champion de France. Ils ont vécu une acmé incroyable et après c'est très difficile de se remettre dans le bain parce que vous vivez sur votre nuage et ça va durer longtemps. Plus le fait que vous avez perdu Mike Maignan qui était votre meilleur joueur la saison dernière. Bon, bah voilà.
Gilles
Gloire à Gourvennec. Je sais qu'il est menacé. Mais je passe par votre entremise pour adresser un message qu'on ne touche pas à Gourvennec. Il a pris un club, une équipe quasiment en ruine. Il n'y a plus personne. Seul lui peut les maintenir. Ben, il n'y a plus personne. Ils sont tous partis. Trois départs. Une mentalité exsangue. Un changement d'actionnaire. On n'a pas tout su. L'argent n'est plus dans les caisses. Le transfert d'Osimhen n'a rien rapporté. Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Il arrive en sauveur.
Il manque 190 000.
Ah oui, il manque 190. Très bien. Bravo, Dominique.
C'est pas ce qui explique le manque de justesse technique vu cette semaine, et des joueurs qui sont déjà cramés.
Mais ils sont démobilisés, ils n'ont plus envie d'être là, et lui, il arrive en sauveur. Je sais qu'il est sur la sellette qui risque de sauter, j'espère que non.
Mais qu'il soit sur la sellette, c'est une chose, mais le premier constat de dire qu'il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus. Bah non.
Non, c'est un peu exagéré. On pouvait s'attendre à une saignée, justement par rapport au diagnostic qui est le bon sur les finances exsangues et le fait que cet effectif est aussi construit sur la base d'une formule trading où une fois qu'on a atteint les premiers objectifs, la bascule doit se faire avec des départs. Donc il y a des frustrations très probables chez des joueurs à titre personnel. Mais si le profil d'entraîneur n'était pas le bon, il fallait s'en apercevoir avant. Ils ont quand même misé. Alors je sais qu'il n'y avait pas pléthore non plus de candidatures parce que l'enveloppe n'était pas non plus énorme pour recruter, mais on s'aperçoit quand même que votre ami Jocelyn Gourvennec, pour qui j'ai beaucoup de respect, était quand même un garçon qui était au chômage depuis plusieurs saisons. Personne s'est battu pour avoir Jocelyn Gourvennec. Donc le champion de France ne pouvait pas faire mieux que Jocelyn Gourvennec.
Ce qu'il dit dans le milieu des entraîneurs, Philippe, c'est qu'il est aussi très difficile de travailler avec Olivier Létang. Il y a eu son expérience au PSG, il y a eu son expérience à Rennes, et les entraîneurs se passent le mot, discutent ensemble, et ils savent que c'est très compliqué de travailler avec lui. Il a la grosse tête.
Oui, mais ça, Dominique, la grosse tête, c'est le truc maintenant. C'est la tarte à la crème,
je vous dis ce qu'ils disent, les entraîneurs.
Un garçon comme Olivier Létang, qui a plutôt réussi professionnellement, qui est à la tête du club champion de France en titre, t'as pas la grosse tête. T'as la grosse tête quand tu démarres de rien et que tu réussis vraiment. Olivier Létang a suffisamment de
comment dire. Ils disent que les Christophe Galtier.
Mais ça veut rien dire avoir la grosse tête au niveau d'Olivier Létang.
Bosser avec lui.
Il faut pas répéter ce genre de choses, Dominique. Ne répétons pas ce genre de choses.
Ah bah si les entraîneurs le pensent.
Mais ça veut dire quoi avoir la grosse tête pour Olivier Létang, président.
Ça veut dire que vous pouvez pas bosser avec lui.
C'est compliqué.
Ça veut dire que les entraîneurs se disent, je vais aller là-bas.
Il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il veut mettre son nez absolument dans tout. Il veut avoir les lauriers sur absolument toutes les réussites et puis éventuellement passer tout ce qui va pas bien sur les adjoints. Il a toujours eu, mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qui a une force de travail exceptionnelle, qui est d'un investissement total.
On peut aussi dire qu'il est exigeant.
Le challenge de reprendre une équipe championne de France qui va disputer la Ligue des Champions, à mon sens, doit prendre le dessus sur les éventuels problèmes relationnels qu'on peut avoir au contact de dirigeants qui forcément ont une grosse personnalité quand on est à ce niveau-là.
Vous dites ce que les entraîneurs disent.
Et ça fait partie du débat, Dominique. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'Olivier Létang aurait la grosse tête que les joueurs produisent ce qu'ils produisent.
On se disait pourquoi il n'y a eu que Jocelyn Gourvennec pour y aller à Lille. J'expliquais que les entraîneurs se sont passés le mot et qu'ils n'ont pas forcément envie de travailler avec lui.
Cindy Colmenares.
Bon, alors, pour revenir par rapport au match contre Salzbourg, pour moi, les problèmes se retrouvent complètement sur le terrain. Et je trouve ça un peu lunaire de justifier de la sorte le fait que les défenseurs n'étaient pas au rendez-vous, les attaquants, ils n'étaient pas assez tueurs. Et on l'a vu à l'instar du joueur que vous avez vous-même mentionné. Donc, Gilmas, pour le rappeler. Donc, en fait, tout ne peut pas être mis sur la faute d'eux. C'est vraiment les joueurs sur le terrain qui doivent donner plus. Et c'est vrai qu'au niveau de Mercato, il n'y a pas. C'est toujours un club où, effectivement, ils forment des grands joueurs. Ils les laissent partir. Après, ils se retrouvent dans la même situation. Donc, c'est un peu compliqué pour ces clubs.
Je dis pas que c'est supplément d'âme, en fait. Cette équipe de Lille, Philippe, elle n'a pas été totalement transformée. Oui. Mais quand on regarde par rapport à la saison passée, ils ne gagnaient pas 4-0, Lille, l'an passé. C'était toujours le petit but à la 88e. Parce qu'il y avait quelque chose, il y avait un supplément d'âme.
Et aujourd'hui,
on ne le retrouve pas.
Alors là, pour le coup, est-ce que le supplément d'âme, c'est pas celui que donnait Christophe Galtier?
Bah, c'est à ça que
et que ne donne pas Gilles Vernez, Jocelyn Gourvennec.
Non, mais on n'allait pas reprocher à un entraîneur qu'on a dépouillé de ses meilleurs joueurs de ne pas avoir un supplément d'âme.
Trois
joueurs partis et 15 joueurs qui sont plus là, qui auraient voulu partir, qui rêvent déjà d'après, qui ont perdu leur marque.
Ils ne sont pas au bagne, à lui de les remotiver.
Et qui, encore une fois, je ne critique pas du tout le merveilleux prédécesseur, et qui sont bouillis. Ils sont bouillis, ils ont tout donné. Donc ils n'ont plus de ressources, ces joueurs. Gilles. Et là, on leur fait jouer la Ligue des Champions, ils ne sont pas armés. Donc franchement, laissons bosser
quand même. Tu aurais raison, Gilles, tu peux pas perdre 2-1 à Salzbourg. Salzbourg, c'est personne en Europe.
On ne peut pas non plus dire ça. En fait, je sais que très bien, les championnats autrichiens, il n'est pas non plus brillant, mais c'est quand même les premiers du championnat. Vous ne pouvez pas à chaque fois venir sur un studio.
Rappelez-moi l'identité de l'équipe qui a gagné sur la pelouse du Real Madrid cette semaine.
Voilà. Il y a eu un exploit à Moldave.
Mais il y a eu un exploit autrichien.
Mais oui, en fait, à chaque fois, on ne peut pas continuer à supporter qu'à chaque fois, on s'assoit et on dit bon, l'équipe française a perdu parce que l'autre était trop nul ou l'inverse. Enfin, au bout d'un moment, il faut vraiment faire de l'analyse. Ils sont perdus parce que, comme l'a dit Philippe Sainfourche, lui, il dit qu'il manque d'âme. Moi, je trouve qu'ils ont manqué d'intensité. C'est peut-être la même chose. Ils ont manqué d'intensité. Ils n'ont pas été assez tueurs. Et il faut se réveiller.
Ils n'ont pas été assez tueurs. Passer la ligne médiane, il n'y avait aucune idée. Benjamin André ne savait pas à qui donner le ballon. Il n'y avait rien du tout. Il y avait zéro plan de jeu de la part de Gourvennec, de la part de Lille.
Ce n'est pas la grosse tête d'Olivier Létan. On en revient à Jocelyn Gourvennec.
Je réponds à Philippe qui nous dit pourquoi il n'y avait que Gourvennec pour venir. Moi, j'ai dit parce que les gens ont du mal à régler.
Il allait signer en national avant d'y aller.
Je ne dis pas que c'est la faute de Létan. J'ai jamais dit ça. J'ai simplement voulu expliquer à Philippe pourquoi il n'y avait que Gourvennec. Mais c'est la faute des joueurs, c'est la faute de Gourvennec, c'est la faute de l'état d'esprit.
C'est dans son dur en fait.
Mais il allait signer en national, je vous confirme.
Il est très bon club en national.
C'était pas condescendant de ma part. Mais pas du tout,
j'ai
défendu.
Vous tournez Kazakh.
Absolument pas. Alors, c'est dingue ça. Je vous donne une info et puis vous me.
Bon, c'est une petite info. Avant le PSG, Monaco et Rennes. Monaco, donc à Rennes, solide quand même, Rennes. Face au Vitesse Arnhem quand même. Allez gagner au Pays-Bas.
Ça c'est bien.
Allez gagner aux Pays-Bas.
Ça c'est bien, mais Rennes, j'ai du mal à les suivre. C'est un peu un coup oui, un coup non cette saison. Là, vous me parlez de la Coupe d'Europe, mais en championnat, c'est.
Vous vous rappelez ma question, hein.
C'est l'inverse. Ouais. Et je trouve que la copie qu'ils avaient livrée déjà face à Tottenham était très intéressante. Oui. Là, ils valident face à une équipe évidemment pas du même calibre, mais à l'extérieur. Je trouve que ces dernières années, on a suffisamment vu justement tout l'inverse, des formations qui vous donnent envie de les suivre le jeudi parce que en Ligue 1, il y a eu des choses intéressantes. Et puis tous ces filoches, tout s'écroule. Là, on voit quelque chose d'intéressant.
Ne soyez pas trop bavard, Philippe Sainfourche. On va parler du Paris Saint-Germain et le temps défile. L'AS Monaco sur la pelouse de la Real Sociedad.
Pitoyable. Alors j'ai vu le match, rien, franchement rien. Heureux, mais un partout, c'est un super mauvais résultat. Il n'y avait rien en face, aucune idée. Il n'y avait même pas de public dans le stade, il y avait très peu de gens. Je ne comprends pas. Monaco dominait, il mène 1-0 sur un corner un peu heureux. Et puis il s'effiloche, plus rien, plus aucun enthousiasme. C'est une très mauvaise performance face à une Real Sociedad, certes brillante en Liga, mais qui là n'y était pas du tout. 9 absents.
Vous avez vu le match ?
J'ai regardé tout le match, je vous dis.
Je pose la question, parce que j'ai pas vu le match. Donc je...
Ah oui, ouais. 9 absents, il n'y avait rien à la Real Sociedad. Pas de rythme, pas d'intensité.
Et Lyon,
non.
Et la victoire de Lyon.
Mais vous êtes allé, on ne va pas laisser passer ça.
Laisser passer quoi? 9 absents, vous contestez les chiffres.
Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que Monaco, certes, ça a été un peu compliqué, mais c'est quand même en face de la Real Sociedad. Pour moi, ils ont réussi à tenir jusqu'au bout, parce que vers la fin, vous avez vu les matchs, c'était pas très facile de pas encaisser. Et pour moi, l'essentiel est fait. Moi, j'ai envie de croire à cette équipe. C'est vrai qu'ils vivent des moments difficiles, surtout sur une équipe qui est quand même deuxième des Ligas, rappelons-le, et le niveau de la Liga est quand même assez important. Donc voilà, non, moi, je n'enterre pas Monaco, je pense qu'ils vont continuer sur une bonne lancée.
Et il ne faut pas enterrer Lyon.
Non.
Première période très moyenne.
Non seulement il ne faut pas enterrer Lyon, mais
3-0 contre Brøndby.
Il faut quand même identifier ce qu'on identifie d'ailleurs assez régulièrement chaque saison, mais là, c'est manifeste. Que ce soit l'effectif, que ce soit l'entraîneur, globalement l'entité club lyonnaise cette saison doit très logiquement être le dauphin du Paris Saint-Germain. Ils vont pas se rater quand même chaque saison. C'est clairement l'équipe qui est la plus taillée, la plus sérieuse pour pas battre le PSG, mais l'embêter le plus longtemps possible.
Ah ben, ça a failli être un tir au but juste avant 20h, mais ce sera pas une question tir au but ce soir. Voilà.
Lyon est-il taillé. Mais alors, est-ce que j'encaisse le point du tir au but?
Non, pas du tout.
Après la publicité. Parce que Gilles Verdez, co-leader à vie, il va falloir quand même en reparler.
Avec Sébastien Tarrago.
Également.
Après la publicité, le Paris Saint-Germain. Alors, le Paris Saint-Germain,
justement.
J'ai lu un peu partout. J'ai entendu que c'était un match référence. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Messi qui joue les carpettes, là, au pied du mur. Parisien.
C'est ce que vous retenez du match de Messi.
Mbappé dimanche en 8 à l'envers qui traite Neymar de clochard.
Bref, on parle du
Paris la publicité, on parle du Paris Saint-Germain après ceci.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match, le temps passe. Cindy Colmenares, Philippe Sanfourche, Dominique Sévrac pour le Parisien aujourd'hui en France et le procureur Gilles Verdez. On a parlé de tous les clubs européens sauf du Paris Saint-Germain. Victoire cette semaine.
Et l'OM.
On a parlé de Marseille?
Non, on n'a pas parlé de Marseille.
Je n'imagine pas les messages sur les réseaux sociaux à venir. On n'a pas parlé de Marseille.
On a parlé de tout le monde sauf du PSG de Marseille. Il va falloir la noter cette émission quand même, c'est rare.
Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Marseille?
Qu'ils ont été volés.
Plein de choses.
Franchement, ils ont été volés. L'arbitre ne comprend pas. Il y a un pénalty accordé, retiré par la VAR au bout de longues palabres. Marseille méritait sa victoire. Aimé cette équipe marseillaise.
Est-ce que ça justifie la colère de Longoria à la fin du match?
Non, pas du tout.
Alors, on est d'accord.
Absolument
pas. C'est une image scandaleuse. On parle beaucoup des supporters en ce moment. Un président qui est sur la pelouse en train de quasiment vouloir frapper l'arbitre et de lui expliquer avec ses bras et sur d'autres des insultes que c'est pas comme ça qu'on arbitre. Moi, je peux pas. Je n'en peux plus de ce monde-là.
D'autant que le pénalty, on peut en parler.
Je n'en peux plus de ces dirigeants-là. Qu'est-ce qu'ils font sur une pelouse?
Alors, je ne veux pas être l'avocat du diable et vraiment, moi, je pense que...
Étant Longoria?
Non, pas du tout. Non, moi, je pense que Longoria, j'aime bien l'image qu'il renvoie des Marseille. Certes, là, c'est vrai qu'il s'est un peu énervé plus qu'il qu'il fallait, mais en réalité, Marseille a été volé, Pénon, il y en avait. Il y a eu faute dans la surface. Je ne vois pas comment on peut dire que la faute n'était pas sur la surface.
Ça veut dire intentionnellement. Ça veut dire que l'arbitre, il vient et il décide de ne pas favoriser Marseille.
Non, mais tu comprends que le football, c'est de la passion.
C'est pas volé. Volé, ça veut dire qu'il n'y a pas une intention de l'arbitre de tricher. Là, vous êtes en train de me dire.
Par inadvertance, un vol par rue.
C'est de la compétence, surtout pas un vol par ruse.
J'essaye de trouver un mot qui pourrait coller. Ils ont été lésés. Mais on dit dans le langage commun, ils ont été volés. Voilà.
J'étais assez étonnée que vous n'aviez quand même pas parlé de ces matchs-là, OM, parce qu'il y a eu encore des débordements, des jets des protectifs d'un côté et de l'autre. Et c'est quand même.
C'est délibéré. C'est une ligne éditoriale ce soir. On ne parle pas des tribunes. Vous êtes d'accord ou pas?
Pas tant que ça, parce que ce que relevait Dominique à juste titre, l'attitude d'un dirigeant responsable, quand on sait le nombre d'incidents qui ont, alors est-ce le hasard ou pas, c'est pas moi de le déterminer, mais qui ont mis en cause l'environnement marseillais à l'extérieur, et là pour la première fois à domicile au Vélodrome, avoir ces attitudes-là en fin de match, légitime quelque part le manque de contrôle et donc qui engendre ensuite la violence. Donc Pablo Longoria, on sait très bien qu'en ce moment il a besoin de se construire son image de dirigeant. Il est arrivé à la présidence.
Philippe a déjà construit. Tu as vu les mercatos qu'il a fait?
Alors, tu as vu quand même Laura qui l'a appelé.
En fait,
c'est
quoi?
C'est un recruteur, c'est un super scout. Mais là, en fait, il est obligé de montrer qu'il est aussi un président de club de la dimension de l'Olympique de Marseille. Et donc, pour moi, il surjoue un peu.
Je ne suis pas complètement en désaccord avec vous, d'accord? Je trouve qu'il a fait un peu trop. Mais vous devez comprendre que par rapport au sans-jeu de ces matchs-là, c'est les minimums, c'est des, au moins s'énerver de la sorte. Surtout quand tu t'es fait voler un match. Je suis désolée pour moi.
Si on parle vraiment de foot,
il y a eu pas mal de déchets techniques du côté de l'OM. Ils n'ont pas été brillants. Parfois, je me dis même que la première période, ils auraient pu marquer juste avant la pause. Ils auraient pu marquer les adversaires. Ils n'ont pas fait
Vous ne pouvez pas légitimer l'irruption, l'intrusion d'un dirigeant comme ça, un président sur le terrain, alors que le contexte était volcanique, alors qu'à grand peine l'arbitre était allé au bout de la rencontre, et lui il rentre. Vous imaginez s'il avait réactivé les violences qu'il y en a eu après le match?
Oui, ce n'était pas du tout un contexte tout à fait calme et que c'était déjà les bazars. Et les bazars, ce n'était pas que dans les tribunes, c'était aussi au niveau de l'arbitrage. Alors autant habituellement, j'aurais été d'accord avec vous sur le fait que de toute façon il faut se maîtriser un peu, mais là je comprends, je ne cautionne pas. Je comprends.
Ouais, bon, à Marseille, on est passé de rien à tout. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, on était avec Jacques-Henri Hérault, André Villas-Boas, qui, objectivement, quelle que soit leur qualité, n'avaient des profils qui ne ressemblaient en rien à cette ville de Marseille. Okay. Et là, maintenant, on est dans l'outrance. C'est-à-dire que Longoria, Sampaoli, c'est le théâtre permanent.
Mais je suis désolée, regardez avec Sampaoli, les joueurs, il y a des voix, j'en ai marre d'entendre à la télévision ou à la radio ou peu importe, que les joueurs sont cramés, que je ne sais pas trop quoi. Non, il est fait bosser, il est fait travailler. Maintenant, on a une équipe de Marseille qui donne envie d'être regardée. Alors, on parle de jeu, c'est autre chose.
Non. Ça fait 10 minutes que je me suis retiré des débats. Ça fait 10 minutes que vous me faites les tribunes, Longoria, du sociétal. Dès que j'ai le dos tourné, je le sais, quand on quitte le studio à 20h le soir, vous me dites oh, Olivier, il fait un peu trop de sociétal, il devrait faire un peu plus de football. Là, c'est vous. Pendant un quart d'heure, vous me faites du sociétal.
Non, on a parlé du déchet
technique. Longoria, les amis, ne serait pas rentré sur la pelouse. Et le résultat aurait peut-être été en faveur de l'Olympique de Marseille si on avait vu une équipe un peu plus conquérante et convaincante.
Parce que la question que je posais sur Lille m'inquiète,
moi c'est Marseille qui m'interroge désormais.
Oui, elle inquiète. Marseille m'interroge depuis le début de saison, c'est sympa. Ça commence à patiner, Dominique. Je me pose des questions. Il y a Milik qui revient, j'ai retrouvé un panier. Milik qui revient, d'accord, c'est un constat. Milik n'a rien fait, mais il revient, donc on va le mettre de côté.
Mais les autres,
franchement, Harit, quand il rentre, c'est sympa. Non, il se passe quelque chose à Marseille.
C'est sympa, 0-0. Les autres, les titulaires, les 11 qui ont démarré le match.
Ils n'ont pas perdu
un seul match. Le seul qu'ils ont perdu, c'est celui à Nice, qui n'est pas fini. Ouais, et on va rejouer.
Et Lens. Ah, oui, mais voilà. Donc, j'ai trouvé une espèce de petite spirale. Mais vous êtes encore
dans la condescendance dont parlait Cindy tout à l'heure. C'est-à-dire que Galatasaray, c'est une équipe qui joue régulièrement la Ligue des Champions, qui a l'habitude de ses rendez-vous européens. Marseille ne les a plus, ces habitudes-là.
Prenons le problème différemment. Est-ce que le jeu des Marseillais vous a convaincu?
Moi, j'ai trouvé qu'on avait deux équipes qui avaient certains manques, mais est-ce que Marseille est intrinsèquement beaucoup plus fort que Galatasaray? J'en suis pas certain.
Non, moi la réponse est non. Je l'ai dit au début de mon intervention, il y a du déchet technique. Ils sont pas en train de jouer comme on les a vus les semaines précédentes. Ça inquiète. Après, je pense pas.
Ça m'inquiète pas, ça m'interroge.
C'est pas. Non,
ça m'interroge sur la condition des joueurs.
Bridés, c'est un club qui va.
Ah non, vous n'allez pas nous faire.
J'essaie de comprendre le jeu un peu. J'essaie de comprendre la position des joueurs.
Je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est-à-dire que il y avait le Sampaoli time miraculeux. Il y a plus. Ça joue sur l'énergie, les volcaniques. Il arpente la pelouse inlassablement. Les joueurs sont un tout petit peu déboussolés.
Quelle organisation, quel système.
C'est un peu plus énergique que Gourvennec.
Oui, mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu de flou.
J'ai entendu système. Sévrac, Sanfourche, c'est quoi le système marseillais?
Bah, en fait, à la perte du ballon, c'est une espèce d'explosion de hop, on y va, on attaque dans tous les sens. Alors le maître à jouer, c'est Dimitri Payet. Le problème, c'est
donc à l'entraînement, c'est que dès qu'on perd le ballon, hop, on y va dans tous les sens.
Les clubs français sont fermés, donc on n'a pas le droit d'y assister. Hein. Si vous assistez à un entraînement, c'est que vous n'êtes plus en Ligue 1, vous êtes déjà en Ligue 2. Donc non, c'est pour l'instant, c'est ça, cette espèce de football total entre guillemets. Moi, j'aime pas cette expression, mais c'est sympa à voir. Je sais pas combien de temps ça va durer. Pour l'instant, je m'ennuie beaucoup moins qu'avec André Villas-Boas.
Mais il y a des supporters marseillais dans cette rédaction, je ne les nommerai pas par charité,
on les salue, hein.
Qui sont contents de perdre. Ils se régalent.
Ils sont contents.
Ils sont contents.
Contre Lens.
Et ben, c'est quand même une défaite. Contre Galatasaray à domicile en Coupe d'Europe.
Lens a fait quand même un match très.
Mais ils se sont régalés. Ils se sont régalés. Moi, je veux bien. Mais combien de temps ce discours va-t-il durer?
Lens, c'est quand même plein son
nez. Seule la victoire donne raison.
Oui. Ah oui. Ah ben ça, on peut revenir sur le débat équipe de France, Didier Deschamps,
le débat prochain sur Pochettino et le PSG, il y en a pas alors.
Mais là vous parlez comme
c'est un génie.
Non, c'est un prérequis.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
La suite d'On fait le match avec également la Ligue 2, une demi-heure de jeu à 19h32. Sachez que Guingamp et Rodez sont à égalité un partout, que Valenciennes mène à Caen par 2-0, que le PFC mène face à Nancy par 1-0 et que Le Havre mène face à Dijon par 1-0. Partout ailleurs, 0-0. Cet après-midi au Cernim, 2-2. Amiens-Toulouse, 0-0. En Ligue 1, match de 17h. Montpellier-Strasbourg, 1-1. À 21h dans RTL Foot, le match entre Nice et Brest. Le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est un match référence, comme on l'a lu et entendu ici et là, après cette victoire contre Manchester City, 2-0 cette semaine.
Ce que ça veut dire, c'est un match abouti, c'est un match où on a enfin senti un collectif, les choses se mettent en place. Alors, est-ce que c'est un coup d'un soir ou est-ce que ça va durer? On ne sait pas, parce que pour l'instant, on n'avait pas vu ça. Moi, j'ai fait les 8 matchs du PSG en Ligue 1, les 8 m'ont ennuyé, la plupart, voire la totalité. Donc là, j'ai vu enfin une équipe, j'ai vu des choses formidables. Donnarumma pour son premier match de Ligue des Champions, bon, j'ai vu un Verratti exceptionnel, j'ai vu un Gay, mais je l'avais déjà vu comme ça contre le Real Madrid en phase de poule. Donc, j'attends de voir, je ne suis pas la référence à quoi.
Autorisez-moi à vous dire que le match référence est une expression qui m'agace, mais c'est ce que j'ai entendu.
Je suis d'accord avec vous.
Mais ça existe dans le sport de haut niveau, d'avoir un moment précis, surtout quand c'est une expression collective. Tu ressors d'une rencontre face à un adversaire prestigieux qui t'a battu sur deux matchs la saison précédente. C'est pas un match décisif pour la suite de la saison. Personne ne s'y trompe. Les discours étaient assez clairs, que ce soit avant ou après la rencontre. Moi, je trouve que ça nous éclaire un peu plus. Pas sur le niveau d'engagement des joueurs. Si t'es pas motivé, si tu sors pas ce type de match face à Manchester City en Ligue des Champions, tu le sors jamais. Donc moi, je suis pas étonné par rapport à ça. En revanche, ça vient, à mon sens, souligner ce qu'est le Paris Saint-Germain. On a retrouvé les ingrédients qui ont permis au PSG de sortir le Bayern en étant par certaines séquences ultra dominé, mais avec justement une capacité à exploser et à ressortir le ballon dans des conditions exceptionnelles avec une grande vitesse. On a retrouvé ça. Marco Verratti qu'on voit reculer avec 4 joueurs sur lui, on le reverra pas ça cette saison parce que c'est Manchester City. Tous les matchs contre Manchester City sont atypiques. Il faut admettre que tu as des périodes, un quart d'heure, 20 minutes où tu vois pas le ballon. C'est pas pour ça que City est la meilleure équipe du monde. La preuve, ils ont aussi leur séquence où ils font ces matchs-là, saison après saison, où ils ne marquent pas. Et c'est pour ça qu'eux non plus n'ont toujours pas gagné la Ligue des Champions. C'était un match de très haut niveau et Paris a répondu présent. Maintenant, il faudra en faire d'autres.
C'est la victoire première du PSG sous l'ère Qatari face à Manchester City. Mais ces matchs dits référence, il faudra plutôt les gagner en phase éliminatoire plutôt qu'en phase de groupe.
Christian, pour revenir sur votre appétence pour la victoire, c'est un succès contre Manchester City qui, quelques jours plus tôt, avait dansé sur Chelsea. J'avais vu un ballet de City que je n'avais pas vu depuis des années dans le football.
En seconde période,
une organisation. Bon, enfin, moi, j'ai trouvé que là, City était au firmament. Et le PSG les bat. Battre City aujourd'hui en Ligue des Champions, c'est un vrai exploit. Donc, ça veut dire que oui, en Ligue 1, à mon avis, ils choisissent leur match. Mais Messi, Neymar, même Mbappé, la Ligue 1, c'est pas leur truc. Pardon ?
C'est leur quotidien.
Non, mais c'est pas vraiment leur quotidien. Vous allez voir Messi combien de matchs de Ligue 1 il va rater pour des vraies blessures ou des retraits diplomatiques. Mais le PSG m'a impressionné parce que quand vous battez City là.
Le match en Amérique du Sud, comme le prochain match contre Angers, ce sera un vendredi et dans le même temps.
C'est la manière, voilà. Pas la
ça veut dire que vous pouvez gagner la Ligue des Champions.
Je crois de mémoire, City est resté sur 14 victoires en 17 déplacements en Ligue des Champions.
Oui,
ça donne un peu
incroyable.
Une idée de ce que cette équipe depuis quelques
référence,
années.
C'est Nicole Ménarès.
Moi, je dirais plutôt un match où l'équipe ressemble à ce qu'elle devrait ressembler habituellement, avec les retours notamment des Verratti. Ça, c'est pour moi, c'est toujours ça, les joueurs clés de cette équipe du PSG, qui fait vraiment une animation géniale au niveau du centre. Il fait des efforts en attaque, mais aussi repli défensif. Mais après, il ne faut
dans
pas oublier.
Dans un poste de sentinelle, hein, qui
oui. C'est pas mais, toujours. Oui, très bas, ah, c'est pour ressortir lorsque vous êtes étouffé avec sa pardon. Qualité technique.
Oui, mais après, moi, la difficulté que j'ai trouvée, c'est que quand même, le PSG a beaucoup dépendu, plus de ce que j'aurais souhaité, de Donnarumma, qui, effectivement, c'est très bien, il était présent, mais ils ont été quand même mis souvent aussi en péril, donc j'aimerais un peu plus de des forces d'entrain.
D'accord. Donnarumma, le match est plié face à
Navas. Non, il a encore dit aujourd'hui.
Vous l'avez trouvé exceptionnel, Donnarumma?
Non, pas exceptionnel, non. De toute façon, si vous me demandez mon avis, je préfère Navas, moi. Mais
il y a ses arrêts, très bien. Mais c'est pas toujours orthodoxe.
Oui.
C'est relance au pied. Alors bon, vous me direz, moi,
ils jouent un peu plus haut que Navas. Ils ont pas tout à fait les mêmes profils. Mais ça fait 5 minutes qu'on parle du PSG. On n'a pas dit un truc. C'est le premier but de Messi au Parc des Princes avec le PSG.
Ouais.
Il y a une émotion folle.
Ouais.
On était au parc. On a vécu une émotion folle. Mm. J'ai 25 ans de tribune de presse, Christian. J'ai vécu des trucs dans ma vie. Mm. J'ai vu la France gagner la Coupe du Monde, des fois la perdre en finale avec Zidane. Hein. J'ai vécu une émotion inouïe qui va rester dans ma vie, incroyable.
Pas autant que le 3-0 de la France en 98.
Non, j'y étais aussi, mais non, c'est pas aussi fort.
D'accord.
Parce que y a un côté français, mais j'ai vécu une émotion dingue.
D'accord.
Le Messi a marqué dans sa nouvelle vie au PSG, il a marqué un but du Messi de Barcelone.
Et en plus, c'est à l'équipe de Guardiola.
À l'équipe de Guardiola, avec un relais de Mbappé qui va rester dans les annales. Parce que ce but, il est fantastique, mais ce but, il est fait par la talonnade d'Mbappé. Mm-hmm. C'est la talonnade qui fait le but.
Tout le monde est
c'est sublime.
Non. Enfin,
on est sur un chef-d'œuvre.
En désaccord avec une émotion pure que Nounard Dominique, mais enfin, c'est quand même un premier but. Il était temps qu'il vienne. On en attend d'autres. Là, pour le coup, on se trouve en phase de poule. Donc, c'est joli. Tout le parc a chaviré.
Mais c'est pas face à Metz.
La France entière n'a pas défilé en célébrant Messi le lendemain matin, comme au lendemain de la Coupe du Monde.
Ça ne saurait tarder.
Bon, on va tourner une nouvelle page de publicité. On va parler de Messi qui a joué, entre guillemets, évidemment, vous comprenez, les carpettes, là. La carpette, il est au pied du mur. Enfin, c'est une image qui a frappé tout le monde.
On appelle ça les boudins des portes en Angleterre, pour l'information.
C'est bon. C'est un petit chien, je vois un
Mais c'est efficace, ça, parfois, parce que quand vous ne mettez pas votre chauffage, parfois, et le gaz augmente. Donc,
ça permet aussi
ça permet à l'air de ne pas passer sous la porte.
Oui, oui.
C'est très efficace.
Il n'y a pas de courant d'air dans le mur.
La publicité, et donc, Messi, carpette ou pas carpette, vous comprenez le mot, quoi. Parce que là, mais les supporters du PSG, là, j'en vois.
De Messi, surtout.
Il y a des Argentins qui vous attendent à la sortie du studio.
Allez, c'est parti, Lucas. Allez, la publicité, Lucas.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
La suite d'On refait le match. Il y a encore plein de sujets à évoquer avant 20h. Il nous reste 20 minutes à peine. Deux images qui nous ont marquées. D'abord, la plus récente. Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas vu le match ou qui suivent moyennement le football, quand un mur se constitue sur coup franc, c'est pour protéger le but, le gardien de but, et faire obstacle à celui qui va tirer le coup franc. Le mur contre Manchester City s'est constitué et on a vu Neymar se mettre derrière ce mur, s'allonger de tout son long, parce que souvent le mur, les joueurs sautent, et si le ballon passe en dessous des pieds des joueurs, eh bien ça peut tromper la vigilance.
C'est quand même rigolo parce que
Attends. C'est une image quand même assez particulière. Mais demander à Messi de s'allonger.
Particulière, c'est-à-dire dégradante.
Un peu dégradante.
Mais ouais. Non, mais
c'est quand c'est Verratti contre le
c'est sud-américain, ça.
Ça vous choquait pas, ça.
Non, mais Verratti n'est pas Messi, quoi. C'est aussi simple que cela.
Mais pourquoi c'est dégradant pour l'un et pas pour l'autre?
Moi je suis d'accord. On fait pas ça avec Messi. On met pas Messi allongé par terre.
Mais on lui a pas fouetté pour qu'il se mette par terre. Non, alors,
Messi n'est pas un tapis de sol au PSG.
Je vais plus loin. Ni Neymar, ni Mbappé.
C'est Marquinhos qui lui a demandé,
très bien.
C'est capitaine.
Donc alors, en fait, on fait des émissions toute l'année pour dire que ce club fonctionne pas comme les autres, qu'il y a des stars, qu'il y a des passe-droits, que dans le vestiaire, certains endroits. Et là, quand Messi donne l'exemple, en plus, si vous regardez bien, c'est Marquinhos qui lui demande. Donc moi je trouve que c'est intéressant à bien des égards. Ça veut dire que Marquinhos joue son rôle de capitaine, qu'il a pas peur parce que c'est Messi de lui demander ça. Et si vous faites attention, vous remarquerez qu'il y a quasiment le même coup franc qui va se jouer 3 minutes plus tard. Et cette fois-ci, c'est Kylian Mbappé qui se met dans le mur.
Et c'est Neymar qui demande à Mbappé. Hein.
Oui, et la prochaine fois, ce sera Neymar. Ça veut dire que tout le monde peut faire ça. C'est pas dégradant,
Il s'agit pas d'en faire une polémique, mais ça fait bizarre. Dans le cyclisme, le Tour de France, tu as des Grégari. Un Grégario, des Grégari. Ce sont des porteurs du bidon. Ils vont chercher les bidons pour le leader. Donc
mais vos porteurs de bidons, ils sont
à
500 000 euros par mois. Si c'est pas Gannagay, ça va pas.
Est-ce que je peux
C'est honteux ce que vous dites.
Vous expliquer quelque chose. C'est la perception que vous avez en tant qu'Européen.
J'ai essayé de nuancer.
Pour un Sud-Américain, je vais pouvoir peut-être. Pour un Sud-Américain.
Rio Ferdinand l'a dit.
Ce n'est pas comme ça, par la simple et bonne raison que la première fois qu'on a commencé à voir, peut-être pas la première, mais ça a commencé au Brésil. C'était les joueurs, les défenseurs qui se mettaient comme ça par terre,
ça,
défenseur.
Mais quel
parce que Ronaldinho frappait. Et donc, quand Marquinhos dit ou suggère, je ne pense pas qu'il lui demande comme ça expressément, mais suggère à Messi de les faire, c'est par la simple et bonne raison que tous les joueurs sont égaux, qu'il est habitué à les voir dans l'Amérique du Sud, que ça choque personne.
Mais très bien.
C'est un joueur petit, c'est comme Verratti.
Je rappelle que le Sévrac en disant
la
que
saison
était
passée,
honteux de lancer ce genre de débat
aux questions, mais la saison passée, le PSG prend un but contre Manchester City parce que le mur se trouve.
Si c'est Hakimi, si c'est Gueye, c'est normal. Si c'est Verratti,
non mais je pose la question.
Mais Messi, c'est pas un joueur normal, Dominique. Messi, c'est une star internationale. Il accumule les ballons d'or. Vous n'avez pas demandé à Zidane de se coucher par terre quand l'Italie tire un coup franc. Vous n'avez. Vous n'allez pas demander à Pelé de se coucher par terre en 1958. Vous n'allez pas demander à Cristiano Ronaldo de se mettre par terre à Manchester. Messi se met pas par terre, il reste debout.
Comme il est
guidé,
Cristiano Ronaldo, ça serait bien.
Verratti a gagné une Coupe du Monde. Messi, au jour d'aujourd'hui, n'a pas gagné une Coupe du Monde. Pour moi, tous les deux joueurs sont égaux. Messi, Verratti n'était pas sur les terrains. Verratti n'était pas sur les terrains. Il est de petite taille. Messi pouvait les faire.
Deuxième image. Ça, faut remonter jusqu'à dimanche dernier. C'était contre Lyon.
Contre Montpellier, non ?
Montpellier. La sortie de Mbappé, pas content, et puis qui semble dire que Neymar ne veut pas lui faire la passe. Et qui semble le qualifier de clochard.
Non, il dit ça fait chier. Non, mais en fait, pour moi, je me suis repassé la vidéo 20 000 fois. Il dit juste ça fait chier, il ne me fait pas la passe. Et c'est tout à fait normal de parfois faire des petits coups de colère, etc. Après que les gens sur les réseaux sociaux, parce que là, on s'est basqué sur les réseaux sociaux, ont cru ou ont interprété qu'il disait clochard, ça, c'est un autre sujet. Mais on va quand même
pas. C'est le diffuseur de la rencontre qui s'appelle Canal Plus, on peut le dire. C'est dans l'été public. Qui a dit on a lu sur les lèvres et il dit.
Ah, ils sont des gens qualifiés pour lire sur les lèvres.
Ah bah maintenant oui, bien sûr.
On espère.
Bien sûr, ça existe, il y a beaucoup d'experts.
Moi j'ai lu
Donc là aussi, ça crée un
on peut être pointilleux sur les termes.
Ça
ne
veut pas,
pas
dire la même chose. Hein.
Ce qui est très clair, c'est que Kylian Mbappé est suffisamment aguerri, intelligent pour savoir qu'en vociférant comme de cette manière, avec des caméras braquées sur lui, il fait passer un message. Kylian Mbappé, il ne se mettra pas à la faute. Il fait un début de saison qui est parfait, mais il n'a pas oublié non plus qu'on lui a pourri son été, qu'il était censé partir, qu'il n'est pas parti, et qu'aujourd'hui, sur ce genre de petites choses, quand effectivement il voit que Neymar, qui passe sa vie à sortir, qui passe sa vie à... On parlait des passes droits, on parlait de tout ça, et qui jouit d'une impunité totale au sein de ce club, et que quand il passe un match entier, alors qu'on le voit très bien, clairement, là, il n'y a pas besoin de lire sur les lèvres pour voir que Neymar garde le ballon, qu'il n'est pas capable de donner un ballon correctement, alors qu'avant... Il était outrancier dans sa manière de tout le temps chercher Kylian Mbappé. Maintenant, il lui donne plus un seul ballon. Il fait passer son message. Point.
Et bon. C'est normal.
Pour moi, oui.
Allez, on ferme le dossier, on clôt le dossier. Oui. Et on fait une petite parenthèse avant la publicité. Car à 21h, avant le match Nice-Brest, il y aura un hommage rendu à Jean-Pierre Adams qui a joué à Nice, qui a joué aussi à Nîmes et notamment au Paris Saint-Germain. Vous savez, Jean-Pierre Adams était dans un état végétatif, tombé dans le coma il y a 39 ans après une opération bénigne au genou, alors qu'il avait pris sa retraite. Il tenait un magasin de sport à Chalon-sur-Saône. Opération bénigne le matin et erreur d'anesthésiste qui le plonge dans le coma. Et pendant 39 ans, Madame Adams, Bernadette Adams, l'a soutenu, aidé dans une petite chambre de la maison où habitaient dans le sud de la France monsieur et madame Jean-Pierre Adams. C'est une histoire bouleversante. Vous avez peut-être entendu le témoignage ce matin et ce soir de Bernadette Adams, son micro RTL de Sophie Orange. Gilles Verdez, Jean-Pierre Adams, ça nous parle.
Oh là là.
Ça nous parle.
Alors, on disait garde noir. Aujourd'hui, on peut plus le dire, mais je vais le redire quand même. Garde noir avec Marius Trésor. Et puis,
c'est la défense centrale.
La défense centrale de l'équipe de France. Et puis, une vie tellement romanesque. Qui quitte l'Afrique à 10 ans. Il arrive avec quelqu'un de sa famille. Qui repart. Il est tout seul. Il y a un couple de retraités qui l'accueille. Et puis là, il monte les échelons. Fontainebleau. Kader Firoud, qui dira aussi beaucoup de gens à nos auditeurs. Ben oui, qui le repère. Et puis, le voilà. Alors, il avait débuté avant-centre. Et puis, devient arrière central avec Marius Trésor. Après, il va effectivement gravir les échelons. Quand il va au PSG, ça se passe moins bien. Gentillesse, humanité, talent, c'est voilà. Moi, je garde cet aspect du rock. Adams éternellement.
Le rock en défense, alors que jusqu'à l'âge de 22 ans, il jouait attaquant, Jean-Pierre Adams.
Mais c'est pas le football que je retiens, parce que moi je suis là à côté de Chalon-sur-Saône, et donc j'ai grandi avec ses enfants, et qui étaient à l'école avec moi, et l'accident était déjà arrivé, et ils avaient la banane en permanence, ils étaient joyeux, ils avaient une force de caractère, ils avaient un courage incroyable, et donc c'est eux que j'ai envie de saluer, parce qu'il a eu des enfants, donc, qui étaient à l'époque des ados, et aujourd'hui ça doit être des adultes.
Et ses enfants seront d'ailleurs blessure voilà. que Bernabé
et c'est ça que j'ai envie de saluer, c'est des gens qui ont toujours fait bloc. Marlette, elle a toujours fait bloc, elle a toujours aidé son mari, ses enfants ont toujours gardé le moral et ont été combatifs. C'est ces gens-là que j'ai envie de saluer.
Cette histoire est incroyable, elle est absolument bouleversante. Le courage de Bernadette Adams est immense. Et pour les plus jeunes, si on revient au foot, les clubs qu'on a cités tout à l'heure, 22 sélections en équipe de France, 251 matchs hein, en première division. Je regardais d'ailleurs sa première sélection, c'était contre une équipe, une de sélection africaine avec Laurent Pokou, qui était mon idole lorsqu'il jouait au Stade Rennais. Laurent
en Pokou. Amérique du Sud, je crois, non ?
C'était sous Georges Boulogne, 1972. Ouais, ouais. Il jouait à l'époque avec des garçons comme Baratelli, Beretta, Jean Djorkaeff et donc Marius Trésor. Puis sa dernière sélection, c'était en 76 sous Michel Hidalgo, avec toujours Baratelli, mais avec Platini, avec Rocheteau, avec Larquet, Bossis, Battenay, Lacombe, etc. Et toujours avec Marius Trésor. Voilà, on voulait lui rendre hommage et on lui dédie en tout cas cette émission en fait de match. Une page de pub et puis les tirs au but. Là, on redevient, j'ai envie de dire...
Hargneux.
Un peu moins sérieux.
Belliqueux.
Et belliqueux.
Le trône vacille.
Verdez vient que pour ça. Donc,
les plus faibles quitteront le studio.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Il nous reste moins de 7 minutes pour la séance de tir au but. Donc attention au plus rapide, mais derrière le coup de sifflet, réponse rapide si elle est pertinente. Le point est attribué au classement général provisoire. Je le rappelle, Tarago et Verdez sont en tête actuellement. Question sur le Racing Club de Lens, vainqueur hier soir de Reims. Lens deuxième du championnat. Faut-il prendre les 100 et or au sérieux?
Non.
Oui.
Limite Philippe Sansfourche, mais je donne le point quand même.
Non, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est que pour moi, l'Olympique Lyonnais, notamment, est largement au-dessus. Lens bénéficie, à mon avis, de circonstances qui leur permettent, sur un début de saison, de surfer sur une qualité de jeu qui existe, mais qui est quand même qui tient pas à grand chose. On voit sur cette première période hier, il a suffi qu'il y ait un huis clos sur une première période face à une équipe de Reims qui est assez limitée. On voyait que ça manquait quand même de gâchette offensive, ça manque d'allant sur l'ensemble d'une saison. Donc ça peut, à mon avis, jouer les 6-7 premières places de Ligue 1 sans problème. Maintenant, cette place de dauphin, elle est surdimensionnée.
Le point pour Philippe Sansfourche. Rien à ajouter, on ne va pas débattre.
On l'a ajouté en
15 secondes.
Ah bah oui, c'est quand même l'intensité qu'ils mettent. Et puis ils sont énormément des buteurs. Selon les stats des Optagens, ils sont à 10 buteurs là au niveau de ces clubs. Donc moi, je pense que c'est un très beau club.
Il s'embellit
vraiment la Ligue 1.
Alors, deuxième question. Vous l'avez constaté, la Ligue des Nations, c'est la semaine prochaine. C'est sur M6 et sur l'antenne de RTL, bien évidemment. Dans le groupe de Deschamps, absence. Nouvelle absence de Giroud et désormais absence de Mandanda. Par ici la sortie. Est-ce qu'ils auraient mérité quand même, ces deux joueurs, un peu plus de politesse et de précaution?
Non.
Oui, oui.
Non,
c'est une déconne.
Non, pour moi, il est dans son rôle de coach. Et puis, il faut les rappeler que Giroud, il a dit aujourd'hui, il ne le prend pas. Mais je ne suis pas certaine qu'il ne reviendra pas en équipe de France, Olivier Giroud.
Non, il ne reviendra pas.
Karim Benzema. Alors, le point pour Cindy Colmenares. Karim Benzema. Chaque samedi, on a désormais la question tir au but, un peu sur Karim Benzema. Selon vous, quelle place doit-il avoir dans l'histoire du football français? Là, il faut une réponse.
Très énorme.
Dominique Sévrac.
Très haut, énorme, fantastique. Dans le bouquin que Gilles Verdez a consacré à Karim Benzema, je lui ai dit qu'il faisait partie des... À l'époque, c'était il y a combien de temps, Gilles, que ce livre est sorti?
5 ans, peut-être.
5 ans. J'ai dit que c'était déjà... Et c'était 5 ans... On disait pas tout ça il y a 5 ans. J'ai dit qu'il faisait partie des 3 meilleurs buteurs, des 3 meilleurs attaquants de l'histoire de l'équipe de France. Donc vous mettez qui vous voulez avec lui, Papin, Thierry Henry, Kylian Mbappé, ce que vous voulez. Pour moi, il a une place au firmament, au Panthéon. C'est un génie du football. Il est exceptionnel. Il est de mieux en mieux. Il va avoir 34 ans le 19 décembre. Il va finir à la Coupe du Monde. Il va peut-être emmener les Bleus au titre suprême. C'est un génie.
Ou peut-être pas. Et justement, c'est ça la difficulté. C'est un génie au Real Madrid, mais en équipe de France, moi, pour l'instant, je suis un peu frustré.
Il y a une grosse campagne pour lui, pour qu'il soit très, très, très haut dans le Ballon d'Or.
La stat de la semaine, elle est quand même exceptionnelle. 17 saisons consécutives à inscrire au moins un but en Ligue des Champions. Seul Messi l'a fait. Karim Benzema, ça vous place un bonhomme quand même.
Je vais essayer encore de caser deux questions. Elles sont importantes. Barcelone battu par le Bayern en Ligue des Champions cette semaine, humilié. Le Real humilié par Tiraspol, une équipe moldave. Et si Javier Tebas, vous savez, le patron de la Ligue du foot espagnol, arrêtait de donner des leçons au football français, au PSG notamment, ne devait-il pas commencer par balayer devant sa porte?
Alors,
oui.
Non.
Oui. Ah oui,
c'est McLean, c'est Philippe. Ouais, je suis d'accord.
Pas besoin d'avoir.
Oui et non, Tebas, parce que c'est un personnage qui est assez insupportable, donneur de leçons, qui a décidé que la France, le PSG, le Qatar étaient ses ennemis parce que c'est pour mieux masquer les carences de son propre championnat. Mm-hmm. Ceci étant, il a un bilan assez exceptionnel quand même. Si on regarde sur les 10 dernières années, il a réussi à mettre la Liga quasiment au niveau de la première ligue à l'international. Et aujourd'hui, ils entament, il faut bien dire, des réformes de fond pour essayer justement de revenir sur toutes les dérives financières de l'Espagne.
Donc, il les a tolérées.
C'est quand même quelqu'un qui est beaucoup plus sensé que ce qu'on veut bien
faire croire. Il a toléré ses dérives, Philippe.
Hein ?
Il a toléré ses dérives pendant des années.
Oui,
le
Barça et le Real, on peut pas comparer.
Stop. Le 6 octobre prochain, vous le savez, ça fera 2 ans que s'est joué un France-Algérie au Stade de France, de sinistres souvenirs avec la Marseillaise sifflée et une pelouse envahie, match arrêté aux environs de la 70e minute de jeu alors que l'équipe de France menait 4 buts à 1. Depuis, on nous a promis un Algérie-France, mais rien ne se fait, rien ne se passe, pour ou contre l'organisation d'une telle rencontre.
Pour. Contre.
Non, Dominique Sebrac.
Mais il fait avant le coup de sifflet.
Non, je
non,
pense
il
pas,
est malin. Je m'imagine encore.
Dominique
Sebrac. Ça me semble. C'est le vainqueur de la CAN, c'est le vainqueur de la Coupe du Monde, je vois pas pourquoi. Il y aurait des matchs interdits. Évidemment que ça fait partie des matchs qu'on a envie de voir. Il y a une histoire commune. Je sais qu'on est un pays crispé sur les questions identitaires, mais il faut y aller à 100%.
Impossible à organiser. Impossible, trop de tensions diplomatiques, trop d'aléas sportifs. L'équipe de France n'ira pas jouer en Algérie et c'est le seul match qui tienne puisqu'on les a déjà accueillis. Donc hélas, pour moi, ce match n'aura pas lieu.
Et puis, enfin, niveau politique, ça ne va pas changer les choses parce qu'on sait que c'est notamment politique la raison pour laquelle ce match n'a pas eu lieu en Algérie depuis 50 années.
Non, moins de 2 ans puisque
oui.
On est sur le...
Et, non, mais je dis depuis longtemps, enfin depuis 50 ans.
20 ans. Le dernier Algérie-France, l'envahissement,
non, mais là-bas, en Algérie...
Ouais, j'ai dit combien,
c'est pas 50 ans.
Vous avez dit 2 ans.
Avec les tensions politiques qu'il y a, et en plus, notamment la dernière décision, on ne va pas rentrer sur les domaines politiques, mais du retrait des visas, des ressortissants, enfin tout ce qui s'est passé dans l'actualité politique, ça a rendu les choses un peu plus compliquées.
Effectivement, c'est le 6 octobre prochain, ce sera 20 ans.
20 ans.
On peut parler de l'anniversaire d'ailleurs.
Mais ça sera peut-être les Qatars contre qui il y a
triste souvenir.
Moi, je pense que le moteur de l'organisation d'un tel match ne peut pas être politique. Ça vient derrière, c'est sous-jacent évidemment, on peut pas le nier, mais on ne peut pas c'est instrumentaliser le sport à mon sens, et c'est pas ce que l'on veut, c'est pas souhaitable pour le
c'est
sport.
C'est fini. On aurait pu parler également, mais on en parle tous les samedis de la Coupe du Monde tous les 2 ans.
On a les points là. Vous avez noté des points.
Alors 2 points pour Sebrac, 2 points pour Sanfourche, 2 points pour Cindy Colmenares. Mais
qui est le faible ce soir?
Le faible, c'est Gilles Verdez.
Ah oui.
Mais il y a un marquage à la culotte, Gilles Verdez vis-à-vis de Sébastien Tarrago.
Ouais.
Car vous avez beau marquer.
Ah, je t'aurais laissé gagner, toi.
Mais il est toujours plus leader avec Sébastien Tarrago.
Et combien?
Donc, Verdez, regarde devant, ne regarde pas derrière.
Je les laisse espérer.
Merci à vous tous.
Oui, il a rien.
Non, je ferai les comptes avec
Sébastien. Ça doit être au prorata des participations également.
Ah oui, mais ça, c'est le choix.
Alors là, non.
De toute façon, c'est
le choix. C'est le chef, bien sûr. Vive le chef.
Allez, merci Dominique Sebrac. Merci Gilles Verdez. Merci Cindy Colmenares. Merci Philippe Sanfourche. 20h-23h, RTL Foot. Avec Eric Silvestro, Giovanni Castaldi et Xavier Domer. Merci à Lucas et à toute son équipe technique, la publicité, les informations de 20h. Très bonne nuit, très bonne soirée à l'écoute de RTL. Ciao, ciao.
RTL, on refait le match.